Alors, devenir élève, comment le définir? Parce qu'on se rend compte que les acceptions sont différentes. Et donc, je vais essayer d'organiser mon propos autour de trois grands pôles. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'évidence à devenir élève. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui fait différence entre ces enfants élèves que nous avons en classe? Et en troisième, évidemment, après avoir fait un constat et analysé ce qui peut expliquer ce constat, réfléchir à comment faire en sorte que tous les enfants et tous les enfants deviennent élèves, c'est-à-dire que tous entrent dans les apprentissages. Alors, se devenir élève a pris des définitions, a recours des réalités différentes ou des conceptions différentes. Moi, je vais le poser en termes de... ça paraît évident, mais ça a un certain nombre d'effets ensuite sur les pratiques que l'on va... C'est que devenir élève, c'est entrer dans les apprentissages scolaires. Ça, derrière l'évidence, on va essayer d'analyser ce que ça dit, cette évidence-là. Donc d'abord, c'est que devenir élève n'est pas une fin, mais c'est un moyen. Les apprentissages scolaires étant la rencontre organisée, institutionnalisée avec les savoirs, avec un héritage culturel que nous allons transmettre. Et cette rencontre se fait dans des modalités très spécifiques, puisqu'elle est médiatisée et ne peut se faire sans les pairs, c'est-à-dire sans les autres élèves. Donc on a déjà, voilà, un patrimoine culturel, un élève ou un devenant élève, et puis un collectif. Et dans le collectif, il y a évidemment les pairs, mais il y a aussi le collectif représentant l'ensemble des autres, c'est-à-dire aussi bien évidemment l'enseignant. Et très souvent, ce devenir élève, la conception dominante... renvoie essentiellement à une mise en conformité avec une norme, celle de l'école, pourquoi pas, mais perçue prioritairement à travers des comportements. Et ces comportements seraient un préalable aux apprentissages, et du coup, ce qui se joue entre élèves et enseignants se trouverait déconnecté de la question des savoirs et de leur transmission. Alors ça se traduit par des formules qu'on a tous utilisées à un moment ou à un autre de notre carrière, c'est-à-dire ils doivent apprendre à être autonomes dans les activités individuelles, il faut d'abord qu'ils apprennent à s'écouter, je commence l'année par un temps sur les règles de vie, et tant que ce travail-là n'est pas fait, on ne peut pas entrer dans les apprentissages. Cette conception est renforcée, me semble-t-il, par l'opinion selon laquelle l'école se trouve contrainte de socialiser des enfants qui ne le seraient pas dans leur milieu familial et qu'elle aurait alors pour mission de combler ce qui est appréhendé comme des manques. Dans les deux cas, me semble-t-il, l'entrée dans les apprentissages se trouve différée au prétexte que les enfants ne sont pas des élèves lorsqu'ils arrivent à l'école et qu'il faudrait les constituer en élèves avant que d'aborder les enseignements définis par les programmes. Et c'est ça que je voudrais interroger et essayer de voir ce que l'on pourrait penser, comment on pourrait penser autrement cette problématique du devenir élève. Alors bien sûr, entrer à l'école maternelle, ça fait rupture dans les histoires individuelles. Le terme de rupture n'étant d'ailleurs absolument pas négatif. Mais derrière les apparences... forte en maternelle, en petite section, avec des pleurs, des refus ou des enthousiasmes incroyables d'enfants qui y attendaient que ça depuis des semaines et des semaines. Donc, au-delà d'une rupture affective qui est plus ou moins difficile, c'est d'une autre rupture dont il est question. Et cette rupture inscrit les enfants dans un autre rapport au monde, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Dans un autre rapport au monde que celui qui est vécu à la maison. Et on constate très rapidement qu'il n'est pas le même pour tous. C'est-à-dire que certains arrivent dans un rapport au monde qui est proche de celui qui est attendu à l'école, alors que d'autres s'en trouvent extrêmement éloignés de par leur histoire. Donc c'est ces différences-là qu'on va essayer d'analyser en essayant de comprendre ce qui se passe. Alors, nous, on est enseignants, on a passé notre vie à l'école, quasiment. Donc, on est pétri d'évidence. Et bien entendu, à notre insu, puisque les évidences, par définition, ne sont pas toujours conscientisées. Or, pour de nombreux élèves, l'école, c'est vraiment un lieu étrange, voire étranger pour certains. Et ça passe par des choses extrêmement différentes, cette étrangeté. Par exemple, sur des choses toutes bêtes et toutes ordinaires. Appeler la maîtresse à l'école, c'est se taire. C'est curieux quand même. Appeler, c'est se taire. Et appeler, c'est donc se taire et lever la main. Subitement, ce mot-là, appeler, qu'on emploie couramment à la maison et dans la vie ordinaire, revêt une signification qui n'est plus du tout celle qui est la signification de la vie quotidienne des enfants. C'est aussi un endroit où on met en relation des mots comme camion et pantalon le lundi et le mardi, pantalon et camembert. Et on dit que ça va à nouveau, il y a encore des relations entre les deux. Où tous les jours on se demande quel jour on est. Alors que dans la vie ordinaire, franchement, ça n'a que très peu d'intérêt. D'ailleurs, nous-mêmes, on se rend compte que pendant les vacances, on perd la notion du temps. Ou en tout cas, on sait plus, être lundi ou mardi n'a que peu d'incidence. À l'école, subitement, il faut se demander tous les jours quel jour on est. Et ça a l'air très important, puisqu'on y consacre du temps tous les jours. Bref, c'est un endroit où on retrouve des similitudes avec le monde familial, voire pas du tout. Et c'est bien là que des choses se passent différentes dans la tête des élèves, c'est-à-dire que des enfants, en tout cas encore, c'est-à-dire que les codes, les modes de faire et de parler, les sujets d'occupation et de préoccupation, les contraintes, les relations entre les personnes peuvent se révéler extrêmement éloignées de ce qui est connu dans l'univers de la maison, dans l'univers de la famille. Y compris donc pour ce qui relève pour nous du détail. J'en citerai un autre qui m'avait beaucoup frappé, une petite fille en moyenne section dans un atelier d'art visuel qui n'avait rien de visuel, mais ça s'appelle comme ça, donc appelons-le comme ça, qui devait déchirer du papier dans un magazine, et elle était tétanisée et ne le faisait pas. Donc la maîtresse lui a dit à plusieurs reprises, mais voilà, tu peux commencer, c'est bon, voilà. Et elle finit par pleurer. Alors c'est en début d'année, hein, donc voilà, elle se vient à pleurer et elle me dit, mais j'ai pas le droit, c'est interdit de couper, de déchirer du papier. On imagine bien que cette enfant, si elle déchire le magazine à la maison que sa mère vient d'acheter, a des ennuis, et subitement ce qui est interdit à la maison devient obligatoire à l'école. Et c'est pas évident du tout, quand on a 4 ans, de construire que l'interdit devient obligatoire. C'est quand même un saut mental à opérer qui ne se fait pas comme ça de manière tout à fait évidente et spontanée. Voilà, donc on entre dans un milieu artificiel qui s'organise autour d'objets culturels, objets conçus dans une visée d'apprentissage, ce qui a des incidences sur leur utilisation. Ainsi, à l'école, on ne tient pas son crayon comme on le tient à la maison. À la maison, hormis dans les milieux enseignants, les enfants tiennent leur crayon comme ils veulent. À l'école, pas du tout. Et c'est légitime, par ailleurs, qu'à l'école, on leur explique que le crayon ne se tient pas n'importe comment, puisqu'on a des visées d'apprentissage et que la tenue du crayon a des incidences sur les apprentissages requis. Donc, voilà, ce qui appartient à l'ordinaire du quotidien devient aussi, là aussi, renvoie à de nouvelles contraintes et à de nouvelles visées. Donc, ça, ce sont des choses qui sont nouvelles dans leur traitement, alors qu'elles sont vécues déjà à la maison. De la même manière, jouer aux petits chevaux à l'école et jouer aux petits chevaux à la maison, c'est pas du tout la même activité. À la maison, on joue aux petits chevaux pour gagner contre son frère, l'oncle Jules ou je ne sais qui. À l'école, si on joue aux petits chevaux, c'est d'abord parce que l'enseignant a des objectifs d'apprentissage qui sont liés à ce jeu, et que c'est ça qui compte. Et que du coup, l'élève qui se réjouit parce qu'il a gagné laisse l'enseignant parfaitement indifférent devant cette grande victoire, et le gamin ne comprend pas ce qui lui arrive, puisque c'est pas du tout ça qui est requis. Alors donc des objets qui sont habituels, qu'il connaît à l'extérieur mais dont l'usage est nouveau, et aussi des objets totalement nouveaux comme la phonologie par exemple, parce que là encore il y a que dans les milieux enseignants qu'on fait remarquer au petit déjeuner que confiture ça peut rimer avec voiture. C'est vrai que normalement on fait pas ça, dans la vie ordinaire on fait pas ça. Mais c'est pas grave si on le fait, il faut pas se culpabiliser parce qu'on le fait chez nous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc à l'école, l'utilisation des objets n'est absolument pas libre, elle est contrainte. Et elle est contrainte par le milieu parce que c'est un milieu d'apprentissage. Et elle est contrainte également par les codes et les impératifs de ce milieu. On ne commence pas trois puzzles en même temps à l'école. Normalement. Quand on en a commencé un, on est censé le terminer. Non pas parce que l'enseignant l'exige, mais c'est l'activité qui l'exige. Hein. C'est pas parce qu'on est soumis à au desiderata ou à l'autoritarisme d'un adulte qui se trouve là, mais c'est parce que l'activité l'exige, parce que faire un puzzle à l'école, ce n'est pas, comme pour les petits chevaux, mener la même activité que quand on fait un puzzle à la maison. Donc, l'organisation, l'utilisation des objets n'est pas libre, l'organisation du temps n'est pas libre. On ne fait pas de la peinture au moment où on a envie, parce que les apprentissages sont structurés, organisés, qu'on n'est pas tout seul. Et que, en fonction aussi des apprentissages visés par l'enseignant, faire de la peinture recouvre des réalités différentes. Ce n'est pas toujours le même objectif qui est posé là-dedans. Donc les mises en situation sont différentes en fonction des objectifs visés par l'enseignant. Ça peut être l'utilisation d'outils, ça peut être un travail sur l'espace, etc., etc., etc. La relation aux autres aussi ne se constitue pas du tout sur les mêmes bases. En tout cas, elle ne se constitue pas sur des bases affectives. On n'est pas ensemble dans une classe parce qu'on s'aime, mais on est ensemble parce que on a besoin des autres pour apprendre. Alors évidemment, c'est mieux de trouver le maître ou la maîtresse sympathique, mais on n'est pas là pour ça. Ça veut dire aussi que du coup, il va falloir construire une nouvelle relation aux autres qui n'est pas uniquement portée par des affects, mais qui est médiatisée par un objet tiers que sont les savoirs. C'est très compliqué pour certains enfants, cette affaire-là. Et je donnerai tout à l'heure quelques exemples de ce que ça peut provoquer comme incompréhension chez certains d'entre eux. Enfin, les activités proposées s'inscrivent dans des programmes qui échappent complètement aux désirs et aux préoccupations individuelles, que ce soit celles des élèves ou celles de l'enseignant d'ailleurs. Moi, je me souviens d'élèves persuadés que... le matin, si on faisait telle activité, c'est parce que j'avais décidé moi. C'est-à-dire que j'étais toute puissante dans cet espace. Et c'est du coup important de leur expliquer qu'il y a autre chose qui transcende nos histoires individuelles, nos préoccupations individuelles. Et puis peut-être aussi, et c'est là le plus important, enfin, ou en tout cas ce qui est le plus difficile à construire pour les élèves, Et c'est là que les différences les plus fortes s'organisent et vous devez vous en rendre compte dans votre pratique quotidienne à l'école. C'est ce qui fait vraiment différence, c'est la pratique du langage que l'on peut avoir à l'école ou que l'on peut avoir à la maison. Le langage n'a plus pour fonction d'accompagner l'action, mais de la formaliser, de la penser, voire à terme de la conceptualiser. Et ça, bon, on reviendra dessus parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, pour tous les élèves, l'école est un milieu nouveau, mais il n'est pas nouveau de la même manière pour chacun. Et ces réalités différentes que revêt le fait d'être élève a des incidences sur la manière dont ils vont pouvoir entrer dans les apprentissages. Certains sont en phase immédiate avec les pratiques de l'école. Et globalement, et pour aller vite, ce sont les enfants qui sont issus des classes moyennes et supérieures de la population. Alors que d'autres, massivement issus des classes populaires, ont de plus grandes difficultés à entrer dans cet univers-là. Et on a parfois tendance à penser un peu vite, quand on est enseignant, que tous ces éléments de socialisation, d'une nouvelle socialisation, langage, action, rapport à l'autre, etc., sont acquis parce qu'on s'appuie sur nos propres références culturelles. On est quand même, quoi qu'on en dise et quels que soient nos parcours, le produit de la réussite scolaire, nous les enseignants. Même si les parcours ont été un peu chaotiques, on est les produits de la réussite scolaire. Et il est extrêmement difficile de penser en lieu et place de ceux pour qui cette réalité scolaire-là n'est pas évidente. Et donc, c'est bien peut-être... on a peut-être un travail, nous, à faire de décentration par rapport à ce que sont nos évidences. Et ce travail de décentration passe en particulier par l'analyse de la nature de ce qui pose problème aux élèves, y compris dans des situations quotidiennes. C'est-à-dire que, plutôt que de s'arrêter aux causes apparentes de ce qui fait empêchement à être élève, on aurait peut-être à les regarder de plus près quelle est la nature de cet empêchement. Je vais donner un exemple. Des élèves n'arrivent pas à réaliser une tâche. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est une consigne, y compris en grande section. En particulier, certains n'ont toujours pas compris que la consigne s'adresse à tout le monde, donc à eux aussi personnellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à construire le « je-nous », le rapport « je-nous » dans la classe qui est à construire à l'école. Certains... alors c'est très flagrant en petites sections parce que les petites sections ont le grand mérite de nous montrer par leur attitude ce qui dysfonctionne. Ils se lèvent et s'en vont. Moi j'ai des souvenirs assez émus comme ça de la première petite section que j'ai pu faire où je ne comprenais pas ce qui se passait du tout parce qu'il n'y avait pas de manifestation d'agressivité des élèves. Ils s'en allaient, ils revenaient mais ils s'en allaient. Et certains s'en allaient particulièrement quand je disais « je vais vous lire une histoire ». Et il m'a fallu du temps pour me dire « mais quel sens ça a ?» Je vais vous lire cette phrase ordinaire, mais vraiment, c'est on ne peut plus ordinaire dans une classe cette phrase-là. Quel sens ça a pour un enfant à qui on ne l'a jamais dit ? Donc voilà, j'annonçais que moi j'allais faire quelque chose... Ben, eux allaient faire autre chose et quand j'avais fini, ils revenaient. Je crois que c'est à peu près ça qui se passait dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas traduit que « je vais vous lire une histoire, moi l'enseignante », ça signifie « vous allez avoir une activité de réflexion pendant que je lis cette histoire, vous allez être largement aussi actif que moi, voire plus, parce que vous allez devoir écouter, comprendre, échanger, restituer, etc., 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 etc. C'est-à-dire que ce que j'attends de vous, c'est une activité importante, difficile, complexe. Mais si je ne l'annonce pas, le « je vais vous lire une histoire » ne fait pas sens. Et du coup, on voit un certain nombre d'enfants qui restent totalement en extériorité. Alors en grande section, ils ne se lèvent plus parce qu'ils ont ça, ils ont compris qu'il ne fallait pas se lever. Mais leur présence physique ne signifie pas qu'ils sont présents intellectuellement à l'activité. Certains aussi, alors ça prend des proportions parfois un peu curieuses, certains aussi n'ont pas intégré que pour mener une activité, il faut avoir des outils, il faut voilà. Et on voit on le voit beaucoup ça en élémentaire, ça reste des élèves qui attendent que l'enseignant dise ouvrez votre cahier, prenez votre crayon, le bleu, pas le rouge, mettez la date, alors que c'est tous les jours comme ça, hein. Écrivez à trois carreaux de marge, etc. C'est-à-dire que tous les jours, ils attendent qu'on leur dise qu'il faut le faire, parce qu'à aucun moment ils n'ont construit qu'ils devaient en autonomie s'engager dans l'activité qui était proposée. Et puis, je crois aussi qu'ils ont à découvrir, et ça c'est pas simple non plus, que le matériel scolaire, par exemple, ne s'utilise pas comme le matériel personnel. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai trouvée extrêmement significative de ça. C'était en petite section, fin septembre, dans la classe d'une débutante sortante du UFM. Et elle avait installé un groupe d'élèves à une table ronde. Ils étaient 5 ou 6, je ne sais plus, avec au milieu de la table des feuilles A4, une boîte de feutre. Et elle leur avait proposé de dessiner. puis elle est partie s'occuper d'un autre groupe. Et donc moi j'étais un peu en retrait puisque j'étais venue l'accompagner, cette jeune femme. Et donc une petite fille qui parlait très 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 bien dit moi j'aime que le orange. Donc elle tire la boîte vers elle, prend le feutre orange et rejette le reste, mais assez brutalement quand même. Donc la boîte traverse la table et atterrit en face vers un autre enfant qui là, lui, la renvoie. Et donc elle dit, mais moi j'ai dit que je veux que le orange. Donc elle renvoie. Là, un des enfants se saisit de la boîte et consciencieusement débouche tous les feutres. Sa voisine, consciencieusement, rebouche tous les feutres en lui disant qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas déboucher, dit-elle. Il ne faut pas enlever le bouchon, je ne sais plus comment elle a dit. Bon, bref. Donc, un débouche, l'autre bouche. Là-dessus, une autre tente d'avoir un feutre et donc se penche au-dessus de la petite fille au feutre orange, mais en se penchant, recouvre sa feuille et donc la petite fille au feutre orange lui tire les cheveux pour la dégager de sa feuille. Donc la petite fille à qui on tire les cheveux se met à hurler, légitimement d'ailleurs, et attaque sauvagement la petite fille au feutre orange, attaque sauvagement la griffe, enfin bon, quelque chose de très ordinaire, hein, dans une classe de petite section, qui se met elle aussi à hurler. Et pendant ce temps, un petit garçon qui n'avait jusqu'à présent rien dit, rien fait, voit la boîte de feutre arriver vers lui par un hasard incroyable, prend un feutre et commence à faire des traces sur sa feuille. Et à un moment, le feutre dérape et va sur la table qui était très très lisse. Et donc ça glissait, mais un bonheur. Donc, hop, il éloigne la feuille et il continue sur la table. Ravi. Donc deux qui hurlent, un qui débouche les feutres, l'autre qui les rebouche et le cinquième qui écrit sur la table. Et là, la jeune femme arrive et dit, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est épouvantable ce qui se passe. Et je dis, non, c'est absolument normal ce qui se passe, mais vous voyez le nombre de choses qu'ils ont à apprendre pour pouvoir être tout seul à une table avec, heureusement c'était des feutres et pas dangereux quoi, hein, feutre et du papier, mais c'est là qu'on mesure tout ce qu'il y a à apprendre. Et donc du coup alors elle me dit, mais c'est parce qu'ils sont trop petits, c'est parce qu'ils sont agités, c'est parce qu'ils sont énervés, c'est parce qu'il y en a un qui est enrhumé. Pas du tout, ça ce sont des causes apparentes. Ce qui faisait empêchement à ce que chacun s'organise tranquillement, c'est que certains d'entre eux ne savaient pas ce que c'était que par exemple que pour dessiner il était impératif d'avoir une feuille et qu'on ne dessinait pas sur la table. Enfin, des apprentissages qui nous paraissent tellement évidents, mais qui ne le sont pas pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à des situations de ce type. Donc on voit bien que pour certains il y a un passage extrêmement important d'un univers à un autre, et que ce qui leur est demandé c'est un véritable bouleversement de leur mode habituel d'être au monde, et que ce bouleversement nécessite d'être explicité, accompagné, sans quoi c'est pas possible. On peut pas exiger d'un enfant qu'il construise tout ça tout seul. Voilà, c'est énorme ce qu'ils ont à faire, et je crois vraiment que il y a nécessité de les accompagner. Je sais pas me servir de cette chose, donc on va voir un film là. Alors, juste avant, pour vous expliquer, elle va me montrer qu'il n'y a qu'un bouton sur lequel appuyer, ce qui va être désagréable, mais c'est un film qui a été fait, que peut-être certains d'entre vous ont vu, dans une série qui est passée sur la 5 en 2006, ça s'appelait La Maternelle. Alors, dans cette série de La Maternelle, il y avait aussi des films qui ont été faits dans des classes d'élémentaire. Et là, une petite fille en CP va ouvrir ce que je voudrais vous dire après sur ce qu'à ESCOL on a appelé les malentendus.
Parce que quand j'essaie de faire quelque chose, moi, j'arrive pas à faire les choses. d'un seul coup, ils se retrouvent dans un univers quand même un peu rigide. Et c'est vrai que l'enfant, bon, le premier trimestre, il ne se rend pas trop compte, mais le deuxième trimestre, là, il a quand même intégré l'école. Et là, il se rend vraiment compte de ce que c'est. Et là, d'un seul coup, c'est un petit peu le dégoût parce qu'il se dit, bah tiens, là, je suis vraiment là pour travailler sérieusement, quoi. Alors que lui, bah, il est encore petit, il pense encore un peu à jouer. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident pour l'enfant, quoi.
Comme beaucoup de parents, la maman de Manon souhaite voir son enfant s'épanouir à l'école. Justement, le développement de la personnalité est aujourd'hui au centre du système scolaire. L'enseignement se veut ludique, on apprend en jouant. Mais cette notion de jeu est-elle claire pour tout le monde ?
Chef Achille ! Bravo ! Et Manon qui est sous la table, comment tu vas faire pour apprendre à lire ? Où Amel est partie, c'est les maths. Ces enfants-là, ils vont jouer à un petit jeu qui ressemble à une activité qui est après dans le fichier. Ils vont acheter les cubes de la classe. En faux, bien sûr, c'est un jeu. Un cube coûte 1 euro. Achille, il a un billet de 5 euros. Et Thomas, il a 5 pièces de 1 euro. Quel est l'enfant qui peut acheter le plus de cubes ?
Faut se mettre d'accord.
Faut se mettre d'accord, mais comment on va se mettre d'accord ?
Elle a 1 euro, 2 euros, 2 euros, 2 euros.
Oui.
2 euros, bientôt 2 euros.
Oui.
1 euro, 1 euro.
Alors.
Ça fait 6. Elle peut acheter 8 cubes.
Alors pourquoi tu ne m'écris pas ?
Au départ, c'est comme un jeu. Et après, c'est plus simple de faire un travail.
Quand on a des cours,
toi, Carla, tu as pensé que c'était un travail ou c'était un jeu ce matin ?
Un travail.
En fait, quand vous dites on va faire un jeu, est-ce que c'est une manière de les accrocher ?
C'était une manière de les séduire, de façon un peu malhonnête, parce que ça n'avait rien d'un jeu. En plus, tous ne participaient pas, alors qu'ils en avaient tous très fort envie. Mais c'était une situation qui était quand même plus ludique que de tous prendre son ardoise et de se livrer à une trace sur l'ardoise. Voilà, puisqu'il y avait des enfants au tableau, des cubes, de la monnaie factice. Voilà, ça pouvait donner, c'était quand même un support plus accrocheur que peut l'être une ardoise et un feutre.
Prendre 9 cubes et tu vas en enlever 2. D'accord ? Et tu vas compter combien ça fait. Tu te dépêches de faire ça, Manon. Il faut vraiment que tu passes un grand atelier après.
Manon, qui doit apprendre à compter avec des cubes, se laisse emporter par l'aspect ludique de l'activité et finit par jouer à la dinette.
Je vais fermer la tête, allez-vous bien, et après je vais compter.
Tu fais semblant que quoi ?
Ça fait des bouts de viande avec des œufs, de la salade.
Bel exemple de malentendu. De ce qui fait différence. Et une mauvaise réponse, en tout cas, on l'a pu le constater dans les travaux qu'on a fait à ESCOL sur 8 ans d'observation de ce qui se passe dans les classes, serait de penser que les élèves qui ne sont pas d'emblée, comme Manon peut le faire dans le scolaire, c'est-à-dire qu'elle dévie sur le jeu, seraient des élèves en manque de quelque chose et qu'il y aurait à combler ces manques. Et que donc leur mode de socialisation serait déficitaire, leur mode de socialisation familiale serait déficitaire, eu égard aux attentes de l'école et rendrait difficile les apprentissages. Donc il manque de quelque chose, c'est-à-dire qu'elle manque de compréhension de ce qui est attendu, certains manquent de vocabulaire, d'autres manquent d'attention, d'autres manquent de culture. Cette logique du manque renvoie logiquement à l'idée de combler les manques, c'est-à-dire de remplir là où il y aurait du vide, là où il y aurait des trous, et c'est ce qui va provoquer ce qu'on a appelé des malentendus, et je vais essayer de développer pourquoi. Je reviendrai sur ce que je disais au départ, sur le fait qu'on se focalise sur le comportemental, et donc il est généralement retenu dans ces manques, ce qui fait symptôme, donc la norme comportementale. Or, le comportement n'est qu'un moyen nécessaire pour entrer dans les apprentissages, et il devient rapidement une finalité lorsque le comportement des élèves apparaît comme non conforme, et que cette non-conformité en fait une cause supposée des difficultés rencontrées. Donc là, Manon, par exemple, on se dit, elle n'est pas mature, bien qu'elle le dit d'ailleurs, je suis trop jeune, vous avez entendu ça, c'est extraordinaire, elle est absolument étonnante, cette petite fille, je trouve. Je suis trop jeune, donc elle n'est pas mature, et donc elle joue. Et donc, voilà, le problème, ce serait qu'elle n'est pas mature. On voit aussi, j'en parlais tout à l'heure, ces petits-enfants qui se lèvent quand on lit une histoire, et on observait un petit garçon en moyenne section, un petit Mohamed, qui toute l'année s'est levé, c'est-à-dire du début de l'année à la fin, partait au moment de l'histoire sans comprendre en quoi ça pouvait le concerner. Et donc cette vision, cette conception de la socialisation, pardon, assimilée à un comportement, se retrouve dans les réactions des parents. C'est-à-dire que c'est pas par hasard. On retrouve la même chose chez les élèves et chez les parents. On le sait quand on est enseignant en maternelle, où on voit les parents tous les jours, où il y a les parents qui arrivent le matin en disant « Sois sage, écoute bien la maîtresse, sois gentil. » Ceux qui disent « Travaille bien. » Bon, il y a ceux qui disent « Amuse-toi bien », ce qui est un peu énervant, mais bon, ceux-là, on les évacue parce que ce n'est pas très grave. Mais on voit bien qu'il y a cette logique-là. Et le soir, les parents qui ont dit « Sois sage » demandent à l'enseignant « Alors, il ou elle a été sage ?» Et alors que les autres demandent « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as appris ?»« Oh, dis donc, c'est drôlement bien ton dessin, etc. etc. » etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce rapport à l'école est véhiculé par à l'école maternelle, est véhiculé par des familles pour lesquelles l'école maternelle n'est pas identifiée comme un lieu d'apprentissage, même si paradoxalement, ce sont des parents qui sont extrêmement volontaires et décident que leurs enfants vont aller à l'école maternelle. Mais c'est plutôt dans des logiques de apprendre à mon comportement, entrer dans de nouvelles relations sociales, etc. C'est-à-dire que le savoir n'apparaît pas comme quelque chose d'important pour ces parents-là quand il s'agit de l'école maternelle, parce qu'ils ne savent pas décrypter ou lire ce qui s'y construit comme apprentissage. Et bon, voilà, on peut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Sans doute que peut-être on aurait à réfléchir, nous, comment on rend lisible ce que l'on fait également aux parents. Voilà. Donc, ça se traduit par des choses différentes. Certains sont tout à fait dans la conformité à ce qui est attendu, soit parce qu'ils ont compris, soit parce qu'ils ont compris ce qu'ils faisaient là, soit parce qu'il s'agit bien de faire plaisir à la maîtresse, et du coup, on se tient à carreau, parce que sinon, comme me disait une petite fille de la Goutte d'Or où j'ai longtemps travaillé, ça lui fait mal à la tête à la maîtresse quand on n'est pas gentil. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui était à l'œuvre, oui, c'était assez amusant. Il fallait pas faire mal à la tête à la maîtresse. C'est-à-dire que ça peut produire, y compris, des comportements de passivité. Hein. On voit des enfants qui sont assis là, mais absent à l'activité intellectuelle requise. Voilà. Donc, ce que l'on peut se dire, c'est que on évite de se tromper sur ce qui se passe, et aussi on peut se dire que la socialisation scolaire se construit dans le temps, et elle va se construire dans et par l'activité scolaire. C'est parce que ces enfants vont être amenés à rencontrer des activités autres que celles qui vivent à la maison, dans des modalités de réalisation différentes, où le langage a une autre fonction que celui qu'il a à la maison, qu'ils vont se construire comme élèves. Ce n'est pas un état comme ça qui arriverait par l'opération de je ne sais quel Saint-Esprit que d'être élève. C'est quelque chose qui se construit dans une pratique, et cette pratique ne se construit que dans la confrontation aux apprentissages, puisque devenir élève, c'est entrer dans les apprentissages. Ça ne peut donc en aucun cas être un préalable, puisque ça se construit dans les apprentissages. Ce qui fait problème, c'est que c'est la différence entre ceux qui arrivent déjà, j'allais dire, constitués en élèves, mais parce qu'ils ont une culture familiale qui est extrêmement proche de la culture scolaire, dans la manière dont on appréhende le monde, dans la manière dont on pense le monde. C'est ça qui fait différence entre les élèves. Et donc tout ce travail de socialisation scolaire relève de l'école, non pas comme nécessaire à entrer dans des apprentissages, mais partie prenante des apprentissages et construit par dans les apprentissages. Voilà. C'est-à-dire que la socialisation scolaire est une socialisation cognitive avant que d'être comportementale. C'est l'apprentissage d'une nouvelle forme de pensée ou d'une pensée sur le monde qui est à l'œuvre, plutôt que un comportement normé. Alors bien sûr que des comportements sont requis pour entrer dans les apprentissages et pour entrer dans l'activité cognitive. Mieux vaut être assis à une table pour apprendre à lire que de courir dans le couloir à côté de la classe, ça paraît évident. Ceci étant, ça ne va pas suffire d'être assis à la table pour apprendre à lire. C'est l'activité cognitive requise qui fait qu'on entre dans un nouveau rapport au monde. Où il ne s'agira plus de faire, mais de penser ce qu'on fait, c'est ce que je disais préalablement. Il ne s'agira plus seulement de vivre des actions et d'être capable de les mettre en mots pour pouvoir les revivre ailleurs, pour pouvoir les formaliser. Par exemple, à l'école, traverser la poutre, certes, c'est un acte physique, ça passe par le corps et c'est absolument nécessaire, et plus ils sont petits et plus on sait que le passage par le corps est important. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'à l'école, non seulement on va les mettre en situation de traverser la poutre physiquement, mais aussi on va les mettre en situation de s'interroger sur comment ils s'y sont pris pour traverser la poutre. De s'interroger sur quelles sont les conditions de l'équilibre. De s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber. Comment je m'y prends moi pour arriver au bout sans avoir peur, sans tomber, sans me faire mal, etc. C'est-à-dire que c'est ça qui va faire rupture radicale avec les pratiques ordinaires, c'est que on va être dans des pratiques qui sont pensées par et dans le langage. C'est un changement de posture radical pour un certain nombre d'enfants qui ne sont pas du tout dans cette situation-là, dans leur vie quotidienne. Des travaux de chercheurs ont montré, par exemple, que les pratiques langagières des mères à l'égard de leurs enfants petits varient en fonction de la culture dans laquelle elles se sont elles-mêmes construites. C'est-à-dire que dans les milieux populaires, sans connotation péjorative de ma part, il faut être clair, le langage accompagne l'action, donc il est réduit. Il n'y a pas besoin de se faire des discours très très longs quand on fait du vélo, quand on traverse une poutre, puisqu'on est en train de le faire. Dans une connivence, dans une complicité, puisque le regard est important, etc. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, il n'y a pas besoin de construire des phrases sophistiquées, etc. Alors que, et sur un mode assez injonctif, fais ça, pose-toi là, fais comme ça, avec un guidage très très fort de la maman qui a envie que son gamin réussisse. Alors que dans les classes dites cultivées, je mets des guillemets à tout ça, les mères, puisque c'est elles qui ont été particulièrement observées dans leur relation à leur enfant, incitent, essaient de monter. Si tu veux, commence par te mettre à quatre pattes. Elles ne tiennent pas la main, par exemple. Elles encouragent. elles accompagnent au pas à pas la traversée de la poutre. Je donne l'exemple de la poutre, c'était pas celui-là qui avait été observé, mais on voit les comportements ne sont pas les mêmes, donc forcément les enfants à 3 ans ne sont pas du tout dans un même rapport à l'adulte et aux objets qu'ils côtoient toute la journée dans leur vie quotidienne. Voilà, donc importance de d'accompagner ce qui fait cette rupture-là, et il me semble que c'est la mission de l'école, et en particulier de l'école maternelle, que de permettre à la fois d'apprendre à l'école et d'apprendre l'école, comme c'est le titre du bouquin, je suis pas en train de le vendre, mais presque, qu'on a fait avec l'équipe ESCOL sur les apprentissages à l'école maternelle, et ça renvoie aussi à ce que disait Bourdieu il y a beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire que l'école doit donner aux élèves ce qu'elle requiert d'eux. Or, très souvent, l'école considère comme acquis, ou déjà là, ce qu'elle devrait permettre de construire, parce qu'elle s'appuie sur un élève normal, entre guillemets normal, et statistiquement, l'élève normal, c'est notre enfant à nous enseignants, quoi, pour aller vite. Hein. Sauf que statistiquement aussi, il y a 52% des élèves qui sont anormaux parce qu'ils sont, ils ont des parents qui n'ont pas dépassé le diplôme du BEP, qui sont donc dans des rapports au monde, dans des rapports culturels aux objets du monde, qui ne sont pas ceux qui sont requis à l'école. Alors, quand je dis ça, je ne dis surtout pas que les uns seraient déficients ou déficitaires par rapport à d'autres. C'est bien un rapport au monde qui est différent. Ça ne veut pas dire que les enfants des classes populaires sont des handicapés socioculturels, comme on peut parfois l'entendre, ou auraient moins d'intérêt pour les choses abstraites ou les choses de la culture. C'est qu'ils sont dans un autre rapport au monde. Et je peux l'affirmer avec d'autant plus de poids que tous les travaux actuels des neurobiologistes nous montrent sur la plasticité du cerveau, nous montrent à quel point il n'y a pas manifestement d'innéité, mais bien de construction, c'est-à-dire qu'on n'en arrive pas avec des dons. D'abord, il faudrait qu'il y ait un donneur ou un donateur, ce qui devient un peu compliqué. La bosse des maths n'a pas été isolée du point de vue génétique. Donc, on est bien dans quelque chose qui s'est construit et on fabrique notre cerveau pour aller vite. Alors, je ne vais pas vous le dire en termes scientifiques parce que je ne suis pas scientifique, mais c'est bien les sollicitations auxquelles on est soumis dans la plus tendre enfance et au-delà, qui vont faire qu'on sera de plus en plus en mesure de produire, d'inventer, de s'adapter à un milieu, etc. etc. Donc je trouve ces recherches de la neurobiologie passionnantes pour nous enseignants, parce que ça ouvre des possibles extraordinaires. Il n'y a pas de fatalité à l'échec. Il n'y a pas de fatalité à l'échec liée à l'origine sociale, mais au contraire, l'éducation joue un rôle fondamental et du coup, on se trouve, nous, en position de pouvoir agir au-delà de parfois de nos espérances. Quoi. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant d'être informé de cela pour ne pas se sentir démoralisé quand on est en face d'élèves où on se dit ça va être compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible. Et je trouve que c'est assez dynamisant dans un contexte qui n'est pas toujours, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce qui fait différence entre les élèves? J'ai commencé à parler de rapport au savoir. Donc ça, c'est le travail qu'on a mené à ESCOL. C'est un travail qui a été fait avec de la maternelle au lycée. Et on constate des récurrences, hein, dans ces différences qui existent entre les élèves, et on se rend compte que ce que l'on appelle difficulté scolaire est généralement imputable aux apprentissages intellectuels et instrumentaux, mais est aussi corrélé au mode d'interprétation des situations et des activités scolaires, à la non-lisibilité par les élèves des finalités de l'école et des activités auxquelles ils sont soumis, et à la non-compréhension de ce qui fonde les relations entre les personnes. Excusez-moi. Et à la non-perception aussi de la nécessité pour eux de s'engager. Je vais le développer un peu plus. On a mené des enquêtes auprès d'enfants, et moi j'ai mené en tant que conseillère pédagogique. Je peux avoir un verre d'eau parce que là je suis en situation difficile. Merci. Excusez-moi, je suis désolée. On a mené, j'ai mené avec des collègues à la Goutte d'Or il y a quelques années des enquêtes auprès d'enfants de grandes sections de maternelle et plus récemment dans une ZEP du 20e, auprès d'enfants de maternelle aussi et auprès d'enfants de CP. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Alors, je vais vous le dire rapidement, donc un peu grossièrement, ça mériterait d'être affiné, mais les grandes lignes quand même de ce que l'on a pu constater, c'est que ce que disent les élèves qui rencontrent des difficultés, c'est pour apprendre, il faut être sage et il faut écouter le maître ou la maîtresse. Il faut, disent-ils, faire ce qu'elle dit, comme elle dit. L'activité intellectuelle pour ces enfants n'est pas identifiée comme telle. Par exemple, ah c'est sympa, non mais c'est très gentil, merci beaucoup. Par exemple, dans une activité de coloriage de formes géométriques, vous savez, c'est une activité tout à fait ordinaire où les enfants doivent colorier en bleu les ronds, en jaune les triangles, voilà. Quand vous allez discuter, quand vous discutez avec les élèves au bout de 5 à 10 minutes de coloriage et que vous leur demandez quel est leur travail ou quelle est l'activité ou quelle est la consigne, ils disent il faut colorier. Hein ? Je vois que vous opinez du bonnet. Effectivement, on voit ça dans les classes sans arrêt. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont, eux, déplacés sur la tâche, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour mener l'activité, mais ils ont totalement évacué le fait que l'activité, c'était l'identification de formes géométriques. Ça, ils l'ont évacué et ils sont sur la tâche colorier. Et ils s'appliquent à bien colorier. Et ils sont très fâchés, voire en larmes pour certains, lorsque l'enseignant leur dit que ça ne va pas. Parce qu'effectivement, les ronds, ils les ont coloriés en vert, eux, ils les coloriés en bleu. Et un élève disait à la maîtresse, c'est pas juste, j'ai pas dépassé. Alors, c'est vrai que le coloriage était impeccable, sauf que lui, il n'était pas sur l'activité requise, il était sur autre chose. Il s'était laissé emporter par la tâche, parce que ce qui compte, c'est de faire. Les élèves d'élémentaire disent, et on le voit, quand il n'y a pas d'activité écrite, par exemple, on n'a pas travaillé. On entend ça sans arrêt. On le retrouve au collège. Un élève d'élémentaire à la Goutte d'Or me disait, travailler à l'école, c'est gratter. Ce qui en dit long sur le plaisir qu'il pouvait éprouver à faire ça, mais voilà, il faut gratter, c'est-à-dire il faut écrire. Et le travail, c'est quand on écrit. Les phases orales, c'est pas du travail. Quand est-ce qu'on travaille, hein, disent les élèves, quand on a fait une phase d'oral, ce qui est particulièrement difficile à mener dans certaines classes. Donc l'enseignant est épuisé, mais pas eux, parce qu'ils attendent qu'enfin on s'y mette. Voilà. Donc il n'est pas question pour eux, ni de réfléchir, ni de chercher, ni de s'interroger. On fait. On a remarqué à ce propos d'ailleurs, juste une petite incise, qu'à l'école maternelle, et pas seulement, mais particulièrement à l'école maternelle, on n'emploie pas le verbe apprendre. Les enseignants n'emploient pas le verbe apprendre, ils emploient le verbe faire. On fait un coloriage, on fait de la peinture, on fait pipi, tout ça, c'est pareil. Et on n'emploie pas le mot apprendre. Voilà, juste, on a remarqué ça. Ces élèves pensent aussi que se tromper, c'est mal. Donc on est dans un rapport moral à l'activité. On retrouve ça d'ailleurs bien plus tard quand on regarde les enquêtes PISA. Les élèves français ont quand même pour caractéristique de ne jamais oser se tromper, chercher ou essayer, puisqu'il faut arriver immédiatement à la réponse juste. Parce que c'est mal. Et ça, les petits le disent comme tel. Hein. Donc la dépendance à l'adulte est extrêmement forte, tant sur le plan cognitif que sur le plan affectif. C'est elle qui m'apprend, m'a dit une enfant. C'est elle qui dit si c'est bien ou pas. Et j'ai donc mené des enquêtes auprès d'enfants avec une enseignante de RAZED, auprès d'enfants de grande section dans le 20e arrondissement dans une ZEP, où les enseignants m'avaient sollicité parce que ils trouvaient que leurs élèves de grande section n'étaient pas autonomes. Donc ils ont pris un panel, il y avait trois classes, on avait 22 ou 23 enfants, je ne sais plus, avec l'idée qu'on prenait un tiers d'enfants pour qui l'école ne posait aucune difficulté, un tiers d'enfants en vraie réussite, un tiers d'enfants pour qui les choses se passaient normalement, et un tiers d'enfants pour lesquels les enseignants étaient un petit peu inquiets. Et c'est extrêmement intéressant d'échanger avec ces élèves. La première question était sur la consigne. Alors la plupart ne connaissaient pas le mot. Bon, ça c'est pas très grave, mais ne savaient pas ce qu'il fallait faire. C'est quoi la consigne ? C'est ce qu'elle dit la maîtresse. deux seulement disaient, eh ben, ça veut dire que moi, il faut que je fasse ça ou ça. On était parti d'exemples concrets, évidemment. On pouvait pas imaginer une discussion abstraite avec les enfants là-dessus. Mais deux enfants pouvant dire, ben, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça, je, c'est-à-dire introduisant du je. On a repéré aussi que les élèves en maternelle les plus en difficulté ne disent jamais je. Donc deux enfants disaient, moi je dois faire ça quand la maîtresse elle donne la consigne. Une autre question portait sur comment tu sais que tu as fini. 80% des élèves disent, j'ai fini quand j'écris mon nom sur l'affiche. Donc déjà c'est que de l'affiche, le travail c'est de l'affiche, on gratte. C'est quand j'ai fini ou quand je mets ma fiche dans mon casier. Aucun lien avec l'activité, on voit bien. Hein. Et à la question comment tu sais que tu as réussi, alors là, une seule a pu répondre, les autres ont dit à la maîtresse de Razette qui était là, je comprends pas ta question. Ça nous a un peu perturbé quand même de se dire que pour autant d'enfants, la question de la réussite n'en était pas une et ne se posait pas. Et on se dit, ils rentrent dans l'activité sans savoir où ils vont et à quel moment ils sont arrivés. Et s'ils sont bien arrivés au bon endroit. Voilà, donc ça nous interroge aussi sur ce qu'il nous faudrait mettre en place. C'est intéressant d'aller discuter avec eux et de mener des enquêtes parce que ça nous donne à voir et entendre où ils en sont eux, ce qu'on ne peut pas toujours deviner comme ça. Ce sont des élèves aussi qui disent que on va à l'école parce que. On va à l'école pour aller à l'école. Alors que d'autres peuvent dire pour apprendre des choses, parce que je fais de la peinture que chez moi j'en fais pas. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'élèves savent qu'aller à l'école c'est apprendre des choses nouvelles et découvrir du nouveau. Alors que pour d'autres c'est ben, parce que ma maman elle travaille. Pas de chance. Voilà, c'est comme ça. Ou parce que. Certains parlent de la cantine exclusivement. Parce que j'aime bien aller à la cantine. Ça nous amuse un peu, mais à un moment on se dit c'est quand même embêtant qu'en grande section, pourquoi tu vas à l'école, c'est parce que j'aime aller à la cantine. Il y a un problème quand même, même si c'est bien d'aimer aller à la cantine, enfin c'est mieux d'aimer aller à la cantine. Alors, une autre enquête menée dans un début de CP septembre, toujours dans une ZEP du 20e, sur les apprentissages, pas un enfant ne fait référence aux apprentissages de l'école maternelle. Tout ce qu'ils ont appris, c'est à la maison. Alors, quand je finis par dire, mais enfin quand même, vous étiez à l'école maternelle l'année dernière. Ah ouais, alors on jouait assis, on faisait ça, on faisait des trucs. On avait des copines, ça c'est les filles, etc., etc. Mais les apprentissages, alors quand je dis, mais là tu sais écrire ton prénom, oui mais c'est ma maman qui m'a appris, ou mon grand frère, ou ma grande sœur, ou... même si ce n'est pas vrai, parce que bien évidemment, ces élèves, ils ont appris des choses à l'école maternelle, je ne vous engage pas au suicide immédiat là, et collectif, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne conscientisent pas les apprentissages faits à l'école, parce que bien entendu, il y en a eu, mais ils ne le savent pas, ou ils ne le savent plus. Donc ça pose problème. Et je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ça. On doit pouvoir déplacer cette affaire-là. Voilà. Donc, voilà. Ces enfants sont... Ces enfants qui, du coup, ont du mal à se constituer en élèves, restent dans un rapport d'extériorité à ce qu'est l'école. Et ça, c'est quand même un petit peu problématique. Parce que, du coup, ils ne s'engagent pas dans ce qu'ils ont à faire et n'accrochent pas. On parle des décrocheurs pour les plus grands. Il y a des élèves qui quittent l'école maternelle sans avoir accroché à ce qu'était le travail scolaire. Ce n'est pas pour autant que l'on peut dire que ces élèves sont en difficulté. Alors ça, c'est une nouvelle formule qui vient de sortir en un seul mot, élèves en difficulté. C'est ahurissant. Ce ne sont pas des élèves en difficulté, ce sont des élèves qui rencontrent des difficultés parce que le rapport qu'ils ont à l'école ne leur permet pas de comprendre ce qui est attendu d'eux et du coup de s'engager dans ce qui est attendu d'eux. Donc on voit bien, me semble-t-il là, que c'est dans le traitement de la différence entre ceux qui ont compris ce qu'ils faisaient là et les autres que on va pouvoir agir pour faire avancer les choses et ne pas enfermer certains dans des échecs à venir ou les laisser sur le bord du chemin. Et c'est, de mon point de vue, la mission essentielle de l'école maternelle. Alors, bien sûr, si ce n'est pas fait à l'école maternelle, on peut imaginer de poursuivre ce travail-là après, mais je crois quand même que c'est une des missions de l'école maternelle. C'est inscrit dans les programmes, mais je ne suis pas sûre que le devenir élève des programmes recouvre tout ça. Voilà. Il me semble qu'il est un peu réducteur, celui de 2008. Alors, c'est intéressant que le devenir élève apparaisse dans les programmes. Je trouve que c'est une avancée considérable parce que on voit bien qu'il y a une nécessité d'apprentissage de quelque chose. Mais je pense qu'on ne peut pas réduire le devenir élève à ce que en disent ces programmes-là. Alors, quelles sont maintenant les conditions de l'entrée dans les apprentissages pour les élèves? Maintenant qu'on a essayé de démonter ce qui était à l'œuvre, comment faire pour que quelque chose se déplace? On a, je crois, à faire découvrir aux élèves, donc je vais lister un certain nombre de choses et puis après je donnerai des pistes concrètes, à faire découvrir aux élèves que le savoir, c'est pas un produit fini qui existerait quelque part et qu'il faudrait ingurgiter. Une espèce de chose qui existe comme ça, de manière définitive. Mais que ça se construit dans un processus qui est long, qui est lent, et qui permet d'apprendre autre chose que l'objet lui-même. Quand on apprend à écrire à l'école maternelle, on apprend certes à tenir son crayon, on apprend ce que c'est l'écrit, mais on apprend aussi le sens de l'écrit, la fonction de l'écrit, le rapport aux autres, etc. On apprend toujours au-delà, et on apprend aussi, au-delà de ces apprentissages-là, on apprend aussi que l'écrit, ça permet de construire une autonomie, que ça permet de découvrir autre chose que ce que, et tout seul que ce que l'on peut appréhender par des intermédiaires que sont les adultes. C'est-à-dire que les savoirs, c'est aussi ce qui permet de grandir et ce qui libère de la tutelle des adultes. Et je crois que ça, on peut le faire entendre à des enfants tout petits, cette idée-là que... À quoi ça sert cet outil-là quand on le donne tout fait ? C'est-à-dire à organiser des données, et il reste dans l'idée qu'il s'agit de remplir des cases. Sur le plan intellectuel, remplir des cases et organiser des données, c'est pas du tout la même chose. Et donc, prendre le temps de construire le tableau à double entrée, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que cet outil et à quoi il sert, va permettre d'asseoir un savoir qui sera réinvestissable ailleurs. Cette démarche de la construction du tableau à double entrée, décidément je fais de la pub, elle se trouve dans le bouquin qui est sorti en 2009 qui s'appelle « La maternelle, première école, premier apprentissage », tout le descriptif de la construction du tableau à double entrée que l'on fait à la fin de notre section si vous le souhaitez. Donc c'est se mettre en situation de comprendre plutôt que de seulement faire. C'est aussi d'où, et ça va avec, mettre la pensée au cœur de l'activité. Je reviens sur la question de la lecture. Si les enfants ont autant de mal à, certains en tout cas, se centrer sur la lecture, c'est parce qu'ils ne savent pas, donc, je le disais au tout début, ce qui est requis d'eux, et c'est peut-être à ça qu'il faut les entraîner. Et un moyen extraordinaire de le faire, tout bête, c'est vraiment pas compliqué, c'est que plutôt que de poser les questions après la lecture, on va les poser avant la lecture. Préalablement à la lecture, c'est-à-dire qu'on leur donne des points d'ancrage dans le texte qui vont être progressifs, hiérarchisés, je vais développer, mais qui leur permet de savoir ce qu'ils ont à faire eux pendant que l'enseignant lit. On peut leur poser, alors les questions elles sont de différents niveaux, il y a des questions où la réponse est dans le texte et on va commencer par ça en leur disant voilà, je vais vous lire une histoire. Mais ce que je vous demanderai après, c'est d'essayer de que l'on se souvienne des personnages de cette histoire. Question ordinaire. Mais on leur dit avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur écoute, elle est active parce qu'elle est guidée par une réflexion. C'est quoi le personnage? Comment j'identifie? Il est où? Et donc, ils vont avoir une écoute active. Le texte ne va pas leur... plus active, alors c'est pas forcément magique et puis il faut du temps pour y parvenir, mais plutôt que de laisser le texte couler sur eux comme ça, on voit bien, y compris dans leur regard, qu'ils sont en attente de ces personnages et que et on va reconstruire après collectivement les personnages qui étaient là, etc., ce qu'ils faisaient. On peut poser des questions de type où il y aura à reconstruire la réponse à partir de différents éléments du texte, mais là aussi on la pose avant. Et puis, troisième type de question, plus complexe mais qui, de mon point de vue, sont aussi indispensables, on va leur poser des questions quant à l'interprétation du texte avant que de le lire. Par exemple, mais ce ne sera pas forcément la première, ou la première série de questions. Par exemple, après avoir travaillé sur l'histoire du petit chaperon rouge, ou l'avoir lu plusieurs fois, on va pouvoir, une fois, poser la question suivante. Avant, mais comment se fait-il que cette maman envoie sa fille dans la forêt alors qu'il y a un loup ? C'est assez déclencheur d'échanges langagiers entre les enfants, ce type de questions. Parce que quand même, c'est vrai que, alors il y a des enfants qui trouvent que cette maman elle est très méchante, voire irresponsable, alors c'est pas dit comme ça, mais d'autres qui disent, bah oui, mais enfin bon, un petit garçon de 10 ans, oui, mais de toute façon, le loup il fait son boulot de loup. Donc c'est normal qu'il mange. Et un autre disant, oui, moi je suis pas d'accord parce que quand même. Et puis à la fin, c'était, bah oui, bon, d'accord, il fait son boulot de loup, mais il n'empêche que j'ai peur, moi, quand même. Bon. Et on voit bien que là se passe quelque chose d'extrêmement puissant sur ce qu'est la littérature, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'objet littéraire, si ce n'est quelque chose qui me renvoie à moi-même et à mon questionnement sur le monde, quoi. Donc, si c'est posé avant, donc, on est dans quelque chose qui fait guidage et qui engage les élèves dans l'activité de pensée et de réflexion. Alors ça peut prendre d'autres formes, mais je crois qu'il faut, avant que de lire un ouvrage, mettre en place des activités préalablement qui vont permettre à ces élèves, en particulier en petite section, d'appréhender un texte écrit. C'est compliqué, le passage de la langue orale à l'écrit. Et du coup, moi je trouve que raconter l'histoire avant, par exemple, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, de manière différente, de façon légèrement différente. On va bien aussi montrer que raconter, c'est pas la même chose que lire. Et il y a un moment, on va la lire parce qu'ils sont libérés du poids de la compréhension, par exemple, de l'histoire. Et donc, ils vont pouvoir se centrer et centrer leur réflexion sur le texte lui-même, sur l'écrit lui-même, ce qui est un de nos objets d'apprentissage à l'école maternelle. Ces choses-là, troisième pub, c'est vous trouverez ça, mais le bouquin n'est pas encore sorti, il sort normalement le 29 janvier, où il y aura des pratiques comme ça pour l'école maternelle qui devraient paraître donc le 29 janvier, et en particulier sur la question de la lecture sur laquelle on est en train de travailler en ce moment. C'est important aussi de les mettre face à des situations qui déstabilisent ou interrogent ce qu'ils savent, croient savoir, affirment, etc. C'est-à-dire quelque chose qui va créer la contrainte de regarder autrement. J'ai souvenir comme ça d'un travail sur le portrait où la première projection d'une reproduction de Picasso avait, vous imaginez, produit des cris d'orfraie, mais quelle horreur, mais qu'est-ce qui dessine mal ce monsieur. Et du coup, on avait essayé de voir si vraiment il dessinait si mal que ça, ce monsieur, pour se rendre compte que finalement, il avait un point de vue sur le monde qui n'était pas ordinaire, mais que c'était drôlement intéressant de pouvoir montrer non seulement ce que l'on voit dans une peinture, mais ce que l'on sait du personnage que l'on peint, puisqu'on avait travaillé sur les portraits. Ça avait été quelque chose de tout à fait extraordinaire pour ces gamins, découvrant que... Et du coup, leur dessin avait changé, c'est-à-dire que, par exemple, ils apportaient des éléments de couleur. C'était une petite fille qui avait fait le portrait de sa copine, et elle avait mis plein de couleurs, parce qu'elle dit « ma copine, elle rigole tout le temps ». Voilà, c'est-à-dire que du coup, il y avait quelque chose qui s'était construit comme ça, de la compréhension de ce que peut être un portrait, mais ils avaient d'abord été extrêmement surpris et déstabilisés par cette chose qu'ils trouvaient affreuse. Mais bon, comme beaucoup de gens dans les musées, ça c'était pas extraordinaire. Mais c'est poser des questions qui sont étranges, qui sont pas attendues, qui provoquent la curiosité, qui provoquent des réactions, voire d'opposition, etc. À partir de quoi il y a quelque chose qui se passe. Je crois qu'il n'y a pas un être humain qui renonce à comprendre, à moins d'être vraiment lobotomisé, mais qui renonce à comprendre ce qui se passe, quoi. Et on le voit bien avec les tout-petits, cette appétence à comprendre ce qu'il y a autour d'eux. Je crois qu'il faut absolument s'en emparer et avec par exemple des choses que l'on peut mener très facilement en début d'année. Mais comment se fait-il que vous soyez en grande section? Alors ça provoque, je vous assure, un étonnement complet. Et ben, ils ne se sont pas forcément posé la question. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne se sont pas posé la question. Donc quand la réponse est c'est parce qu'on est grand, bah oui, mais en CP, vous serez encore plus grand, donc ça ne suffit pas comme réponse. Les vrais grands, ils ne sont pas là, quoi. Ou en tout cas, il y en a des plus grands que vous qui êtes déjà grands. Qu'est-ce que ça veut dire Et voilà, autant de choses qui sont subitement, mais c'est vrai que le monde, on peut l'interroger. C'est vraiment les mettre dans cette posture-là. De se dire le monde on l'interroge, le monde on le questionne parce que sa compréhension ne s'impose pas. Il faut la construire, quoi. Elle est pas visible immédiatement comme ça. Peut-être aussi les entraîner à je suis toujours dans la démarche d'apprentissage, à différer l'action et les contraindre à anticiper sur l'action. Par exemple, quand on pose une question, interdire la réponse. Ça aussi, ça les perturbe un peu sur le moment. Je me souviens d'un élève dans une classe disant à son maître, mais pourquoi tu nous demandes si tu veux pas qu'on te dise? Et le maître expliquant que certes, il attendait une réponse, mais pas tout de suite, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que d'abord on réfléchisse dans sa tête chacun à ce qu'on dirait si on était interrogé individuellement. Donc on est en situation, voilà, si je vous t'interrogeais toi, qu'est-ce que tu dirais? Du coup, chacun se met en situation de réfléchir et ça provoque un débat infiniment plus intéressant et ça évite quelque chose qui se répand de plus en plus, et je crois que là c'est le contexte de société qui est ça, le geste compulsif, vous savez, et impulsif, c'est-à-dire on fait avant même, on voit en élémentaire des gamins qui alors à l'inverse de ce dont je parlais tout à l'heure, qui lèvent la main avant même que l'enseignant ait fini de poser la question. Et quand on leur demande qu'est-ce que tu veux dire, ils ne savent pas. Voilà, c'est je lève la main et c'est finalement c'est ça qu'il faut faire, donc je le fais. Donc les contraindre comme ça à réfléchir avant que d'agir, c'est extrêmement intéressant. Ou si on met un matériel à disposition pour faire par exemple, je ne sais pas, du dénombrement, c'est voilà, je pose des pions sur la table, mais pour le moment vous ne touchez pas. Et vous essayez de vous dire ce que vous allez faire. Mais vous allez nous le dire aussi. C'est-à-dire qu'ils vont se le dire dans leur tête, mais ils vont le dire à tout le monde. Et on va voir comment ça s'élabore pour chacun, différemment, et comment collectivement on peut envisager une stratégie qui va être opératoire pour agir. Et puis, dans la démarche d'apprentissage aussi, déplacer cette idée que l'erreur est une faute, mais bien plutôt faire avancer que s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Et que c'est bien parce qu'on se trompe qu'on apprend. Et que quand on sait déjà, on n'apprend rien. Ça, c'est difficile à faire passer dans les têtes, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se rendre compte de ça. Une des pratiques qu'on avait mis en place dans des classes, c'était, vous savez, il y a toujours des moments où ils font un début de dessin, ils disent « c'est raté », ils mettent à la poubelle. Et on s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Donc on avait demandé à ce que les dessins ne soient plus jetés, mais qu'il y ait une boîte à ratés. Et on mettait tous les ratés dans la boîte. Il n'y avait pas de prénom sur les feuilles, c'était totalement anonyme. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, on avait accumulé tous les ratés, et où chacun avait oublié quel était son raté à lui, on redistribuait à tout le monde les ratés. Et on dit, ben voilà, ça ce sont des ratés, mais vous allez en faire des dessins que vous estimez, vous, réussis. Bon, on verra pourquoi c'est réussi. Et de se rendre compte que ça les décentrait de leur propre production, et ça permet de se dire, ah ben oui, c'était raté, mais finalement, du raté, j'ai fait quelque chose. Donc c'est pas forcément grave de rater, puisqu'on peut faire du réussi à partir du raté. Et puis progressivement, c'était à partir de leur propre dessin. Tu dis que tu as raté, tu le ranges, tu le reprendras ultérieurement et peut-être que tu en feras autre chose. Et on leur avait montré, alors ça c'est tout à fait intéressant, on le trouve sur internet, ce film de Clouzot sur le mystère Picasso, où on voit comment s'élabore une peinture, où Clouzot donne 7 minutes à Picasso pour réaliser une peinture, il travaille à l'encre d'ailleurs, et il filme en transparence. Picasso fait d'abord un bouquet en noir. Le bouquet devient poisson, qui devient oiseau, qui devient un personnage. Le tout en 7 minutes, puisque c'était la contrainte qu'avait donné Clouzot. Ce qui est intéressant, c'est pour les élèves de se rendre compte que le trait entraîne de la production, qui entraîne de la pensée. On n'entend pas, pardon. Qui entraîne de la pensée, qui entraîne de la production, qui entraîne de la pensée, etc. etc., etc. Et que le beau dessin tout fait, c'est pas dans la tête, on l'a avant, il se bâtit au fur et à mesure que l'on dessine, parce que quand on dessine, on pense aussi. C'est toujours cette idée, je crois moi, centrale de l'exercice de la pensée dans toutes les situations. Voilà. Autre élément important pour que les élèves entrent dans les apprentissages, c'est rendre lisible ce qu'on leur propose. J'y ai fait un petit peu référence tout à l'heure sur le but, le contenu d'apprentissage et le but sont signifiés aux élèves. J'ai donné des exemples sur, je vais vous lire une histoire parce que là on va travailler sur la compréhension de l'histoire. En EPS, on va apprendre à traverser la poutre, puis on va apprendre à descendre de la poutre, puis on va apprendre à se réceptionner à pieds joints, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le but est visible, le but est annoncé, et du coup, ils peuvent savoir s'ils ont fini ou pas fini. Et ils ne sont pas sans arrêt dans l'attente de la parole du maître, qui devient le maître absolu du coup. On va donc leur donner le but, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir le visualiser, mais aussi on va réfléchir avec eux à comment on parvient au but. Donc une fois qu'on a donné la consigne, on la remet en travail dans le groupe, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez faire, à quoi vous devez arriver. On ne fait pas répéter la consigne parce qu'ils peuvent la répéter 12 fois sans l'avoir comprise, donc ça ne sert à rien. À quoi vous devez arriver, reformulation avec leurs propres mots de la consigne. Et deuxième temps, comment vous allez vous y prendre pour arriver au but qui est fixé. C'est-à-dire qu'on commence à anticiper comment on va faire. Ça permet ce fameux temps différé dont je parlais tout à l'heure. Ça permet aussi de ne pas partir tout seul comme devant sa page blanche. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop, eh bien on va piquer les idées du voisin. Et moi, je dis que copier sur le voisin, c'est une activité extrêmement intéressante, parce que c'est très difficile. Très, très difficile de copier sur son voisin, parce qu'il ne suffit pas de faire le même gribouillis. Il faut avoir compris ce qu'il est en train de faire. Sinon, on a zéro à la fin. En tout cas, on voit ça dans les grandes classes. Des gamins qui disent, mais en fait, j'ai tout copié sur mon voisin, il a eu 18 et moi, j'ai eu 0. Ben, sans doute que tu n'avais pas copié ce qu'elle avait écrit, ta voisine ou ton voisin, quoi. Donc, c'est bien ça aussi qui est... Alors, quand je dis copier, c'est s'emparer des idées des autres pour les tester, les essayer, pour finalement se dire que celle qu'on avait, elle était bien plus intéressante. Mais se rendre compte qu'il y a plusieurs moyens d'arriver au but, pour arriver au but, mais que certains sont plus efficaces que d'autres. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que là aussi, ils sont dans cette idée que, eh bien, pour mener l'activité que je vais devoir mener, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire et à comment je vais m'y prendre. On va aussi, en fonction des situations, inventorier avec eux les outils et les matériaux nécessaires pour réaliser l'activité annoncée. Par exemple, quand on va faire de la peinture, de quoi, s'il s'agit de travailler, je ne sais pas moi, sur la trace, laisser une trace, de quels outils on a besoin, de quel support on a besoin, tout ça, c'est nécessaire de le mettre en travail avec eux. Ils se conquièrent là une autonomie qui est nécessaire pour entrer dans les apprentissages. Alors, les critères de fin d'activité de réussite, j'en ai déjà parlé. On va aussi leur annoncer l'étape d'apprentissage. Est-ce qu'on est en début, c'est-à-dire dans une phase d'exploration, recherche, découverte d'une notion, par exemple? Est-ce qu'on est dans une phase d'entraînement? On s'exerce? Est-ce qu'on est dans une phase de transfert? On va essayer de voir si ça marche ailleurs dans une autre situation. Ou est-ce qu'on est dans une phase d'évaluation? C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de savoir, vous et moi, si tout le monde a compris. Sans quoi il faudra revenir dessus. C'est important aussi qu'ils sachent, parce que si on est en phase d'entraînement ou si on est en phase d'exploration, mentalement, ce n'est pas du tout les mêmes choses qui sont requises, les mêmes activités qui sont requises, la même mobilisation intellectuelle qui est requise. Et c'est important qu'ils sachent où ils sont. C'est-à-dire leur donner à voir et à comprendre ce qui se passe, quoi. C'est intéressant aussi, quand c'est possible, de mettre en lien différentes séances d'une même séquence en disant voilà, on va commencer par ça et la prochaine fois on fera ça. Ou à la deuxième séance, qu'est-ce qu'on avait construit la première fois, appris, et où est-ce qu'on va? Voire même mettre en lien des apprentissages communs sur des champs différents. La tenue de l'outil, par exemple, on peut mettre en lien le fait que quand on fait de la peinture ou quand on écrit son prénom, ce qui est en jeu dans les deux situations, c'est entre autres la tenue de l'outil. Et que l'outil, on ne le tient pas de la même manière en fonction des objectifs qu'on se fixe. C'est-à-dire qu'ils puissent voir qu'il y a des relations entre les apprentissages, que ce qu'ils ont appris à un endroit, à une date donnée, peut être réutilisé ailleurs, et que du coup, il n'y a pas tout à réinventer chaque jour. Les élèves qui rencontrent des difficultés sont convaincus qu'on recommence tout tous les jours. On le voit en CP avec des gamins qui, plus ils découvrent de mots, plus se disent « c'est impossible, il y a trop de mots, je ne vais jamais y arriver ». Tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas besoin de mémoriser l'ensemble des mots de la langue française. Voilà. Donc cet apprentissage-là est absolument intéressant à mener. C'est intéressant aussi du coup de leur apprendre à se projeter sur la journée ou sur le lendemain. Par exemple, le matin, annoncer le programme du jour, non pas en termes de lecture d'une histoire, plus gym, plus je sais pas quoi, mais en termes de contenu d'apprentissage. Ce matin, je vais vous lire une histoire parce qu'on va apprendre à travailler sur la chronologie, c'est-à-dire les événements, enfin bon, on le dit en des termes qui sont compréhensibles par tous. On l'annonce. En EPS, etc., tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, en fin de journée, alors, qu'est-ce qu'on va faire demain? À votre avis, à partir de ce qu'on a fait aujourd'hui, sur quoi on va travailler demain? Soit c'est la continuation de quelque chose qui a été déjà travaillé, soit on va annoncer, nous, une nouvelle activité, mais on les met bien en situation d'attente de quelque chose. C'est-à-dire, on s'installe dans la durée, c'est un processus qui dure, qui a des étapes nombreuses et diverses. On s'installe dans une posture, en fait. Et ça, c'est important de le mener comme ça. Autre élément qui est important, c'est restaurer le collectif dans sa fonction. Beaucoup d'enfants ne savent pas pourquoi les autres sont là, hormis pour jouer dans la cour, ou jouer aux petits chevaux, ou jouer à je sais pas quoi, mais n'ont pas construit que, sans les autres, ils ne peuvent pas apprendre. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Si on n'est pas confronté à la pensée de quelqu'un d'autre, notre propre pensée se dessèche assez vite. On s'en rend compte, nous-mêmes, dans notre quotidien. Donc, comprendre ça et comprendre aussi que le groupe-là, c'est pas le groupe de la crèche et c'est pas le groupe de la réunion familiale chez la grand-mère le dimanche après-midi avec les cousins. Qu'il a une autre fonction et donc un autre fonctionnement. Ça veut dire que on explicite pourquoi, à certains moments, on est en groupe, petit, moyen ou grand groupe, pourquoi on est réunis là. On l'annonce, c'est-à-dire qu'on leur explique à quoi ça sert d'être là ensemble. Et on crée des situations où les autres sont nécessaires. Effectivement, s'ils sont cinq les uns à côté des autres autour d'une table en faisant un travail individuel, voilà, on n'est pas dans du groupe, on est dans une organisation matérielle ou géographique, mais c'est tout. Par exemple, en demandant une réponse commune à une question posée, c'est-à-dire qu'il faut trouver une réponse à une question posée. On se met à quatre ou cinq et on doit se mettre d'accord pour donner une réponse en maths ou sur des terrains comme ça. Où on se met dans une situation d'interprétation d'un texte, par exemple, c'est extrêmement intéressant, ça, de voir la fonction du groupe, parce que on n'est pas tous d'accord qu'on fasse ce que je disais sur le petit chaperon rouge. Et après, nous, on va pouvoir avoir un temps de retour où on va leur dire, est-ce que vous avez repéré que c'est grâce à ce qu'a dit machin que machine a pu changer d'avis sur la perception qu'elle avait du loup? Le boulot du loup, pas le boulot du loup. C'est-à-dire que nous, on va mettre des mots là-dessus en leur montrant en quoi l'activité, le collectif a permis d'apprendre. Et progressivement, ce sont eux qui vont être invités à dire ça. En quoi le fait d'être dans le groupe, ça t'a aidé à réussir ce que tu as fait? C'est-à-dire que là encore, on est toujours dans cette idée que on réfléchit ce que l'on travaille et les modalités dans lesquelles on travaille. Autre élément, les supports d'apprentissage. Moi, quand j'ai eu une formation pour devenir enseignant, on nous disait, puis ça a duré très longtemps, qu'il fallait référer au vécu des enfants. Sans quoi ils n'étaient pas motivés. Alors déjà, je vais faire un sort au terme de motivation, parce que la motivation, ça vient toujours de l'extérieur. C'est quelqu'un qui motive. On motive quelqu'un. Sauf que quand on n'est plus là pour motiver, tout s'arrête. Il me paraît plus intéressant de parler de mobilisation, c'est-à-dire ce qui agit de l'intérieur et qui fait que les gamins, ils entrent dans l'activité parce qu'ils en ont compris l'intérêt, la pertinence et le sens. Bref. Donc, tout ce qui est motivé... Alors, la motivation, ça passait par... il faut habiller l'activité pour la rendre acceptable et supportable. C'est intéressant parce que ça renvoie à une conception de l'apprentissage incroyable et à une conception des savoirs tout aussi incroyable. C'est-à-dire, apprendre, c'est ennuyeux et les savoirs... C'est vraiment terriblement ennuyeux aussi. Donc on va décorer. On va mettre des petites choses qui font plus jolies, qui détournent. Donc on va faire du ludique, on va, etc. Et on voit ce que ça donne, le ludique pour Manon, qui effectivement, avec ses pions de couleur, fait cuire la viande, la salade, etc. Et on est confronté à ça très souvent. J'ai observé dans une classe... des élèves qui devaient dénombrer une collection, avaient des collections d'objets et c'était des petits ours. En plus que l'enseignante avait découpé, elle avait dû y passer la nuit. C'est le débutant qui se dit qu'il faut faire du joli matériel, donc elle avait découpé ses petits ours parce que travailler sur boucle d'or les trois ours. Donc en plus le thème, bref, j'évacue le thème parce que c'est un autre sujet. Mais et donc elle découpe ses petits ours pour qu'ils comptent les ours. Donc elle les met là et elle leur dit, voilà, vous avez des boîtes, là vous en mettez tant, bon. Et elle s'en va. Et c'était extraordinaire parce que il y en a un qui dit, alors il commence à prendre des ours, à compter, puis il y en a un très vite qui dit, moi aussi j'ai un nounours chez moi. Je me dis, aïe. Et en effet, aïe. Et oui, moi aussi j'ai un nounours, oui mais moi, mon nounours c'est mon doudou. Ah ben moi pas, mon doudou c'est pas du tout un nounours, moi mon doudou c'est je sais pas, bref. Et puis on en arrive à, et ben moi j'ai laissé mon doudou chez ma mamie dimanche, et ben j'ai pleuré parce que mon papa et ma maman ils n'ont pas voulu qu'on aille le chercher, et ben j'ai pleuré, j'étais pas content. Bref, les doudous, nounours, mamie sont restés dans la boîte au milieu, et les enfants ont beaucoup discuté sur leurs activités du week-end et de la soirée. Donc je crois que leur donner des pions tous de la même couleur, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le rouge, il y en a qui n'aiment pas le bleu, enfin, c'est comme ça, c'est-à-dire que il faut faire avec ça. Je crois que ça sert à rien de faire contre, il faut dans un premier temps faire avec. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être capables à un moment de compter des pions de couleurs différentes ou de compter des nounours, des doudous, des machins, mais bien que dans un premier temps Ils identifient que l'activité, c'est de dénombrer des collections. Voilà. C'est ça l'activité. C'est pas se parler de sa vie. Une fois qu'ils ont identifié l'activité mathématique, on peut après amener tout ce qu'on veut comme support. Mais plus le support est référé à quelque chose qui renvoie à des affects, moins ils sont sur l'objet d'apprentissage. Alors ça, on l'a vérifié dans toutes les classes où on est passé. Ça les détourne de l'objet d'apprentissage. Le langage, et puis après je vais m'arrêter pour qu'on puisse échanger. Alors, le langage dont je disais que c'était vraiment ce qu'il y a de plus ségrégatif en classe, mais vous vous en rendez bien compte, j'imagine, dans vos pratiques quotidiennes. C'est important que l'enseignant donne à voir des pratiques langagières qui ne sont pas des pratiques habituelles. Qu'elles soient, quand je mets les pratiques langagières, j'inclus l'oral et l'écrit, évidemment. Par exemple, qu'ils écrivent ou lisent devant les élèves, mais quand je dis lisent, autre chose que le livre qu'ils lisent aux élèves. J'avais instauré, moi, dans ma classe, après la lecture du bouquin de Pénac, vous vous souvenez, Pénac racontant qu'il lisait à ses élèves, à ses grands élèves, un début de roman pour leur donner envie de lire, et ils se précipitaient tous chez le libraire pour acheter Balzac et dévorer Balzac, ce qui était quand même une belle réussite pédagogique. Et à partir de ça, j'avais instauré tous les matins dans ma classe, après l'accueil, un temps de lecture où moi-même je lisais. Alors, un roman, un documentaire, des circulaires, le journal, en espérant que l'inspecteur ne passerait pas quand je lisais le journal, parce que je disais, il va quand même falloir argumenter sur le fait que je lis le journal dans la classe. Bref. Cette lecture-là, j'avais donné une seule consigne, c'était « On ne me dérange pas, je lis ». Et au départ, les premières séances, les enfants habitués à voir des adultes lire sont allés lire. Et d'autres, à une distance raisonnable, mais pas trop loin quand même, me regardaient lire. Et faisaient des tentatives pour parler. J'avais dit, je suis désolée, quand je lis, on ne me dérange pas. Voilà. Et puis après, évidemment, on a échangé là-dessus. Mais qu'est-ce que tu lis ? Donc je leur expliquais le journal, une circulaire, expliquant ce que c'était qu'une circulaire. Et un jour, je suis arrivé avec un roman comme ça, de 800 pages. Et évidemment, le lendemain, j'avais le même. Et ils m'ont dit, oh, bah, dis donc, tu lis pas vite ? Non. Bon, voilà, les enfants, quand même, la lecture, elle se fait sur une séance. Hein, en général, la lecture d'album, ils vont du début à la fin de l'histoire en une fois. Donc, découvrir ça, et il n'y a pas d'image dans ton livre, et où tu l'as trouvé, et comment tu le choisis, bref, tous ces échanges sur des pratiques de lire qui ne sont pas des pratiques habituelles, je pense que c'est important qu'ils le voient. Alors, on ne passe pas la journée à lire, ne me faites pas dire que j'ai dit que vous devez passer la journée à lire le journal dans la classe, mais je pense que c'est intéressant qu'ils voient des pratiques qu'ils ne voient pas forcément habituellement, à la condition qu'elles soient parlées à un moment, c'est-à-dire qu'on échange sur ce dont il s'agit. Et ce que j'ai pu observer à partir de là, c'est que c'était devenu un rituel, qu'il n'a plus été question de le supprimer, et que tous les matins on commençait avec ça. Alors ça a un effet aussi d'apaisement extraordinaire entre le moment d'agitation où on arrive tous un peu chacun porteur de ce qu'on a vécu avant d'arriver. C'est un temps extraordinairement calme qui fait que l'entrée dans les apprentissages est beaucoup plus serein, et c'est aussi un temps où on échange. Ils se mettaient après par deux, ils discutaient, ils se conseillaient des lectures, ils demandaient que tel bouquin soit lu puisqu'ils l'avaient feuilleté. Ça a créé autre chose dans le rapport à la littérature qui m'a paru tout à fait intéressant. Et ça aussi, c'est facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de choses très, très particulières. On peut faire la même chose dans une prise de notes vue par les élèves. Très souvent, quand on échange avec eux, on note sur nos genoux. On écrit sur nos genoux. C'est très dommage parce que du coup, ils ne voient pas ce qui est en train de se faire. Et je trouve que c'est intéressant de prendre des notes au tableau en leur présence, pour faire des listes, pour, des listes de matériel dont on a besoin, pour écrire une lettre, pour inventorier du matériel, etc. Y compris en n'écrivant pas forcément très bien la première fois, parce qu'on écrit vite. On peut faire deux choses, écrire vite et pas très bien, et du coup, après, écrire correctement et montrer la différence entre le brouillon et le jet définitif, le dernier, montrer donc qu'il y a un travail entre les deux. On peut aussi écrire sous leur dictée lentement et du coup dire, attendez, stop, là, vous allez trop vite. Le temps de la parole et le temps de l'écriture n'est pas le même. Cette prise de conscience-là des choses. Ça permet aussi de réaliser qu'une fois que c'est écrit, ça reste. Le lendemain, on le retrouve. Le surlendemain, le sur-surlendemain. C'est encore là. Autant d'apprentissage qu'ils ont besoin de faire à l'école maternelle et qui, là aussi, ne nécessite pas de faire des choses tout à fait extravagantes dans la classe. C'est intéressant aussi de... Ça, c'est Brigodio qui le faisait. Je trouvais que c'était pas mal. D'utiliser, par exemple, le cahier d'appel. Elle montre aux petits, dans la classe de petits, ce que c'est qu'un cahier d'appel et comment on s'en sert. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans un de ses ouvrages. Où elle, les petits sont réunis autour d'elle. Elle montre les prénoms. Donc, je suis écrit. Il y en a qui disent ça, hein, les petits. Je suis écrit dans le cahier. Je suis là, j'ai une place là. Je l'ai tous les jours. Et puis elle montre que ce qu'elle écrit, pourquoi elle écrit, les codes pour mettre absent, présent, etc. C'est-à-dire leur faire fréquenter des usages sociaux de l'écrit qui sont qu'ils ont à découvrir. Peut-être aussi les mettre en situation, j'allais dire, de devoir parler. Je vais donner un exemple concret. Lorsqu'on affiche une image au tableau et qu'on demande aux élèves ce qu'ils voient, une fois qu'ils ont dit il y a un arbre, un pré et un mouton, voilà, ça s'arrête assez vite, il y a peu d'échanges. Certains peuvent penser que c'est pas un mouton, voilà, mais ça va pas très loin. Quand on met deux images au tableau et qu'on leur demande de chercher ce qui est différent entre les deux, immédiatement il se passe quelque chose. Parce qu'ils sont là en situation d'activité intellectuelle où il leur faut chercher dans l'une et l'autre des repères, des indices, analyser, comparer, c'est-à-dire être, la comparaison c'est une activité éminemment intéressante et ô combien intelligente. Et là, immédiatement, il se passe quelque chose du point de vue de l'échange langagier et du point de vue de la construction et du vocabulaire, parce qu'il faut être précis. On ne peut pas dire « là, c'est pareil que là », on n'a pas le droit de bouger, il faut passer par les mots, on est contraint de passer par les mots. Et c'est une activité très stimulante sur le plan intellectuel et sur le plan langagier. Et là aussi, la conscience est prise que parler, c'est comprendre, et pas seulement nommer. Peut-être que c'est intéressant aussi et important d'expliciter ce que nous, les mots que l'on dit ou les formules que l'on utilise. Alors, bon, je disais tout à l'heure, si vous avez un problème, appelez-moi, ou si vous voulez dire quelque chose, appelez-moi, expliciter que appeler, ben, c'est se taire. Mais c'est aussi, par exemple, quand on dit à un élève, réfléchis, fais un effort. Continue, mais t'as pas fini. Qu'est-ce qui sait de ça? Qu'est-ce qui est pas fini? Réfléchir, on fait comment? C'est intéressant d'interroger les élèves sur comment il faut que tu fasses. Alors maintenant, tout le monde leur a dit qu'il fallait réfléchir. Donc ils disent, il faut réfléchir. Dans ma tête. Et comment tu fais pour réfléchir dans ta tête? Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, quoi? C'est même un peu anxiogène comme question, quoi. Il se passe des choses là-dedans que je ne maîtrise pas. C'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure, c'est intéressant de projeter sur comment je vais m'y prendre pour réaliser la tâche. C'est bien l'élucidation de ce qui se passe dans la tête qui est là, convoquée. Et du coup, on s'interroge sur, et on met à plat et on fait advenir tout ce qui se dit sans avoir conscience d'être dit quand on fait quelque chose. Parce que les gamins, ils se disent des choses. Mais ils n'ont pas conscience qu'ils se les disent. C'est important de le faire advenir pour qu'ils réalisent comment ça se passe, une réflexion, comment ça se traduit pour eux-mêmes et puis pour les autres aussi, du coup. C'est-à-dire que réfléchir, ça s'apprend parce que ça se conscientise. Et c'est intéressant de pouvoir leur signifier. Et puis, quand on leur dit « t'as pas fini », plutôt que « t'as pas fini », c'est... Est-ce que tu penses que tu as terminé et qu'est-ce qui te fait penser que tu as terminé? C'est-à-dire que là aussi, on argumente, on ne se satisfait pas d'un oui-non. Ça veut dire aussi que nous, en tant qu'enseignants, on évite de valider d'emblée une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Mais on renvoie à chaque fois au groupe le questionnement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réponse d'un tel ou d'une telle ? Est-ce que vous la partagez ? Est-ce que vous en avez une autre ? De façon à ce que progressivement, on élabore quelque chose qui fait réponse. Sans pour autant, bien sûr, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, loin s'en faut. Mais qu'en tout cas, on pousse la réflexion collective jusqu'au bout. Et que s'il n'y arrive pas collectivement au bout, à un moment, on peut nous dire la réponse. Il faut qu'on s'autorise à dire des choses aussi. Hein. Il ne s'agit pas de s'effacer dans la classe du tout. Mais bien de faire en sorte qu'ils aient le temps d'élaborer le plus loin possible leur réflexion, ensemble. Donc du coup, individuellement, parce qu'il n'y a de réflexion collective que s'il y a de la réflexion individuelle. Bon, ça veut dire tout ça que ce qui compte le plus, c'est pas les retours sur les aspects linguistiques du langage, parce que ça se construit après. Ou avec, ou pendant, mais c'est pas ça l'objet. Ce n'est pas grave si, à l'oral, ils n'utilisent pas la négation. D'abord parce que, pour le coup, on leur demande d'avoir à l'oral le langage qui relève de l'écrit, ce qui quand même peut poser problème. Bon. Mais ceci étant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et progressivement, on va construire le fait que il y a plusieurs manières de dire les choses. Et on va introduire ce qui relève du linguistique, syntaxe, lexique, etc. Mais si on les engage à réfléchir et à penser, ils vont se rendre compte rapidement qu'ils ont besoin, eux, des mots pour dire les choses. Et que du coup, le vocabulaire devient nécessaire. Il n'est pas un préalable, il est bien une construction. C'est-à-dire que le mot, il va advenir et être mémorisé à partir du moment où on y aura réfléchi. C'est Tchekhov, je crois, ou Tolstoï, je ne sais plus, qui dit le mot advient quand le concept est construit. Mais c'est précisément ça. Quand on a construit de quoi il s'agit, le mot, ce n'est plus un problème. En revanche, un mot comme chose vide, c'est un problème. Ils les oublient aussi vite qu'ils les ont intégrés, ou retenus, plutôt. Donc, c'est bien la pensée qui est au cœur de la question langagière. Et du coup, ils vont aussi devoir opérer un passage de, puisque c'est la pensée qui nous intéresse à l'école, d'un langage de communication ou d'expression de soi à un langage d'élaboration, de construction. Je donne un exemple vécu en tant qu'enseignante. Je conduis des élèves, je travaillais en banlieue parisienne, au musée Beaubourg. Donc on prend le car pour aller à la gare, le train de banlieue, le métro, l'escalator. Je débutais et ça ne m'avait posé aucune question tout ça. Donc on passe la journée, j'avais bien préparé ma séance, j'avais choisi 4 œuvres, enfin impeccable. Et puis on revient en classe et on fait ce qu'on appelait à l'époque exploitation de la sortie. Donc on exploite. Et là, la moitié de la classe parle des œuvres qu'on avait vues, et une peinture, c'est pas la même chose qu'un bas-relief, et la sculpture, on peut faire le tour, et etc. Plein de choses tout à fait intéressantes. Alors que d'autres disent, oh bah dis donc, c'est drôlement bien les escalators. Hein. D'ailleurs, on a passé un temps dans les escalators. Vous voyez, Beaubourg, on monte, on est monté, descendu, je ne sais combien de fois. Donc émotion extraordinaire avec ces escalators. C'est vrai que c'est très rigolo un escalator, surtout ceux de Beaubourg, parce qu'on a cette vue sur Paris, c'est fabuleux. Et donc voilà, ils ont parlé de l'escalator très longuement. J'étais un peu dépité, ne sachant que. Et alors je tentais, avec une bonne volonté évidente, de les. Oui, mais quand même, la tristesse du roi, c'est vous ne trouvez pas que c'est un grand collage, etc. Oui, mais l'escalator. Voilà. Et là, j'ai compris, il m'a fallu du temps pour comprendre, et puis rencontrer des gens qui avaient réfléchi avant moi à cette affaire, que Les, comme dit Elisabeth Bottier, ceux qui étaient sur l'escalator, ils parlaient de leur sortie. Et ils racontaient, comme ils auraient raconté à leur maman, à leur papa le soir à table, leurs émotions. C'est normal. Alors que d'autres avaient compris ce que j'attendais moi en tant qu'enseignante, et ils parlaient sur l'objet d'apprentissage, c'est-à-dire sur l'œuvre d'art, le musée, etc. Voilà. Et c'est ce passage-là qui a opéré. Et je crois que pour l'opérer, on ne peut pas éviter qu'il parle de l'escalator. Je vous assure, pour l'avoir essayé. Mais on peut avoir deux temps d'échange. Le temps où on raconte, on parle d'eux, et c'est ça qui est annoncé. On va se raconter quand même ce que ça nous a fait d'aller là-bas. C'était une belle aventure. Et on se raconte nos émotions, et le pique-nique, et la fontaine Stravinsky, et tout ça. Et à un autre moment, on parlera plus de ça, parce que l'objet, ce sera d'essayer de comprendre ce qu'on a vu, etc. Et ce que j'avais comme projet d'apprentissage à l'époque, que je n'ai plus en mémoire. Donc ce passage de parler de à parler sur, c'est-à-dire à être non pas dans je raconte, mais à j'élabore de la pensée sur. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire j'ai vu une peinture, là on parle de. Parler sur, c'est élaborer sur ce qu'elle raconte cette peinture, ou enfin cette œuvre, et comment elle a été faite, et c'est un collage, et etc., etc., etc. C'est-à-dire que là, on est dans une élaboration de quelque chose qui n'est pas immédiat, du point de vue de la perception, mais qui va s'élaborer dans l'apprentissage. Ça, c'est un temps, c'est très compliqué à faire, mais je crois que c'est important de les conduire progressivement à prendre conscience que les pratiques langagières sont situées toujours dans un contexte et qu'on ne dit pas la même chose, on ne parle pas de la même chose en fonction du lieu où on se trouve et de l'objet de l'échange que l'on a. Voilà. Nous-mêmes, on ne s'exprime pas de la même manière en fonction des lieux où l'on se trouve. Voilà. Et bon, sur la question du vocabulaire, je n'y reviendrai pas puisqu'on en a déjà parlé. Peut-être si juste une quelque chose qui peut être fait en maternelle pour le vocabulaire. Je crois que Brigodio parle de ça aussi, mais peu importe. C'est quelque chose qu'on avait inventé, nous, pour des élèves beaucoup plus grands, et qu'on a. C'est un texte duquel on extrait un certain nombre de mots, les plus difficiles, et les élèves doivent. Trouver les mots qui manquent, alors pas forcément le mot de l'auteur, mais remplir les trous, quoi. Ce qui exige un travail d'élaboration, de compréhension du texte, etc., etc. C'est une activité qui est extrêmement intéressante à mener. En maternelle, on peut faire la même chose, mais alors bien sûr pas à l'écrit, mais en enlevant le mot et en faisant un petit bruit à la place. C'est-à-dire dire une phrase, enlever un mot et dire à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait bien être qu'on met là? Là, on fait un travail de systématisation sur le vocabulaire, mais qui s'appuie sur du sens, parce qu'un mot, c'est pas du bruit, c'est du sens, c'est du concept derrière. Et c'est ça qu'il faut construire. Faire du vocabulaire, c'est élaborer conceptuellement du sens. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'on aurait peut-être à bâtir dans les classes, au-delà de tout ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure, de moments où le vocabulaire est travaillé, parce que c'est une nécessité pour réfléchir avec les autres. Donc je vais m'arrêter. Pour vous dire que je crois vraiment que l'école maternelle, elle est essentielle pour réduire les écarts entre les élèves. Elle joue un rôle fondamental. Donc on a une lourde responsabilité en tant qu'enseignant là-dedans. Mais qu'en même temps, il y a des outils pour réaliser ça, et que ce qu'on a à se dire, c'est que peut-être ce qu'on a à faire vraiment, c'est à la fois apprendre à l'école, et je reprends ce titre d'ouvrage parce que je trouve qu'il dit bien ce qui est mon propos, apprendre à l'école en même temps qu'on apprend l'école. Et il me semble que s'il y avait à définir l'école maternelle, c'est bien ça qu'elle a à faire.